Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, une enquête criminelle qui dure 17 ans. L'enquête sur le meurtre d'une étudiante de 18 ans, Stéphanie Fauvio, en 1995 à Lille. Et vous verrez, le dénouement de cette histoire 17 ans plus tard est stupéfiant. Pour la débriefer, je serai avec l'avocat général qui a porté l'accusation contre le meurtrier aux deux procès de 2016 et 2017. Luc Frémiot, que je salue. Bonjour, monsieur Frémiot.
Bonjour, Christophe Ondelat.
Et à tout à l'heure, j'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation Céline Levraz.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Karine habite un petit appartement en colocation à Lille, rue Faidherbe, près de la gare, au cinquième étage. Le 24 mai 1995, vers 17h, elle rentre chez elle avec un copain, Lilian, et son frère. On est à la veille du week-end de l'Ascension. Elle vient préparer son sac pour partir. Elle arrive devant sa porte. Elle veut glisser la clé dans la serrure. C'est quoi ce bordel? La clé rentre pas. Regarde, on dirait qu'elle est bouchée. Oh, j'espère qu'on nous a pas cambriolé. Le copain Lilian, qui est insolide, donne alors un coup d'épaule dans la porte. Voilà, c'est ouvert. Ils entrent, ils font le tour de l'appartement.
J'ai l'impression qu'on n'a rien volé. Tout a l'air normal.
Karine commence donc à faire son sac. Mais son copain Lilian est inquiet.
Karine, c'est pas normal. Il y a quelqu'un qui a tenté d'entrer dans votre appartement. Il faut prévenir Stéphanie. Ben, elle est encore à la fac à cette heure-ci.
Stéphanie, c'est la colocataire. On est en 1995, il n'y a pas encore de portable. Et donc le copain Lilian colle un petit mot sur le frigo. On a dû défoncer la porte, désolé, mais quelqu'un avait bloqué la serrure. Et là, Karine, qui est toujours en train de faire son sac, va vers la salle de bain pour prendre sa trousse de toilette. La porte résiste. Elle est fermée à clé de l'intérieur. Les trois se disent, c'est le cambrioleur. Il s'est enfermé dans la salle de bain en nous entendant arriver. Sur la porte, il y a une petite grille de ventilation. Il se tortille pour tenter de voir à travers. Et là, il voit un pied. Un pied qui pend sur le bord de la baignoire. Un pied inerte. Le copain Lilian, une fois de plus, enfonce la porte. Mon Dieu, Stéphanie, la colocataire, elle est en peignoir, dans la baignoire, à moitié immergée. Elle est morte. Stéphanie Fauvio, 18 ans, était étudiante en mathématiques. Et évidemment, les trois jeunes appellent la police et les flics de la Sûreté de Lille débarquent dans les minutes qui suivent.
A priori, elle a été étranglée, hein. T'as vu son visage? On dirait qu'il a été brûlé.
Dans la foulée, arrivent les gars de la scientifique. Ils passent l'appartement au peigne fin. Ils trouvent des empreintes digitales, des cheveux, des mégots dans un cendrier et sur le propre corps de Stéphanie Fauvio, ils trouvent un poil.
Je pense que c'est un poil pubien, non? À mon avis, elle a été violée. Et si ça se trouve, on a l'ADN du tueur.
Karine, évidemment, est en état de choc. Mais les policiers ont besoin d'un maximum d'informations maintenant.
C'était mon ami d'enfance. On vivait en colocation depuis qu'on a eu notre bac.
Et là, un truc lui revient. Un truc qui s'est produit le matin même.
On a sonné à l'interphone vers 7h15. Je suis allé répondre, il n'y avait personne. Et puis ça a recommencé un quart d'heure plus tard, à 7h30. Et là, c'est Stéphanie qui a répondu. Mais il n'y avait encore personne au bout.
À quelle heure est-ce que vous quittez l'appartement, vous, ce matin?
Un peu après 8h. 8h05, je dirais.
À ce moment-là, où est votre amie Stéphanie ?
Elle est encore en peignoir. Elle s'apprête à aller prendre son bain.
À 7 heures du soir, les policiers sont encore là, un garçon se présente à la porte.
Bonjour, je suis Vincent, le copain de Stéphanie. On devait passer la journée ensemble. J'ai pas de nouvelles, donc je suis venu voir. Donc, qu'est-ce qui se passe?
Je suis désolé, jeune homme. Stéphanie a été assassinée. On l'a retrouvée morte dans son bain, ce matin.
Stéphanie? Mon Dieu!
Depuis combien de temps étiez-vous ensemble?
2 ans.
Ensemble, ils refont le tour de l'appartement avec lui.
Si vous voyez quelque chose qui manque, dites-le nous, hein.
Les bijoux que je lui ai offerts. Un collier et une bague, je les vois pas.
Étonnant. C'est tout ce qu'il manque a priori. Rien d'autre n'a été volé. Et maintenant, il faut prévenir la famille. Ils habitent dans le Pas-de-Calais. Les policiers appellent. Ils tombent sur Valérie, la sœur de Stéphanie.
Mes parents sont pas là. Ils passent le week-end au Tréport en Normandie, dans leur caravane. Je peux leur transmettre un message ?
Oui, un terrible message. Et Valérie prend tout de suite la route du Tréport. Elle arrive au camping dans la nuit. Et le père, Francis Fauvio, se présente le lendemain matin au commissariat de Lille. Il demande à la voir.
Je ne pense pas que ce soit une très bonne idée, monsieur. Franchement, faites-moi confiance. Vous garderiez une très vilaine image d'elle.
Mais lui va directement à l'Institut médico-légal, il les baratine et on le laisse entrer. Et il voit donc le cadavre de Stéphanie, son visage méconnaissable, brûlé, et les traces de l'étranglement. Une chose est de perdre sa fille, une autre est de la voir dans cet état-là. 48 heures après la découverte du corps, tombent les résultats de l'autopsie. Elle est morte étranglée, ça se confirme. Et le visage brûlé, au deuxième degré. C'est parce qu'on l'a ébouillanté. Vous vous rendez compte? Ébouillanté après l'avoir violé. Ou au moins agressé sexuellement. Le viol n'est pas certain. Quant à l'heure de la mort, le légiste n'est pas très précis. Entre 6h et midi. Les policiers font le tour des voisins, rien vu, rien entendu.
Et on a sonné à votre interphone, par hasard ?
Oh non ! Non, non ! Personne a sonné, non ?
L'interphone, justement. Les policiers s'aperçoivent qu'il n'y a pas le nom de Karine et Stéphanie dessus. Pourquoi ? Karine explique qu'elles l'ont retiré quelques semaines plus tôt pour ne pas être importunée. Donc, celui qui sonne le matin du crime, c'est chez qui il sonne? C'est un proche, il les connaît, non? Un voisin, finalement, a croisé quelqu'un devant l'immeuble ce matin-là, une jeune fille, blonde. Mieux que ça, il l'a vue sonner à l'interphone.
Et là, je lui ai proposé d'entrer. Je pouvais lui ouvrir. Ben, elle a refusé. Elle a dit qu'elle préfère attendre que son ami lui réponde.
Il faut la retrouver, cette blonde, dardard. Eh bien, figurez-vous qu'elle se présente d'elle-même à la police.
J'étais sa meilleure amie. Ce matin-là, j'étais dans une agence de voyage à 2 pas de chez elle. Comme j'étais en avance, j'ai sonné. Mais personne m'a répondu.
Il se trouve qu'elle a passé la soirée de la veille avec Stéphanie. Elles ont dîné ensemble et après, elles sont allées boire un verre.
Il y a quelque chose qu'il faut que je vous dise, à moins que vous soyez déjà au courant.
la colocation se passait pas très bien entre Karine et Stéphanie. Je sais pas si ça sert à quelque chose que vous le sachiez, mais je préfère vous le dire, elle s'entendait plus trop. C'était pas trop le même genre de fille, il faut dire. Stéphanie, elle sortait pas mal, et puis Karine, elle, c'était plutôt quelqu'un de renfermé, quoi. Il y avait un décalage. Et puis, je sais pas si vous savez, mais Stéphanie, elle avait un petit copain, Vincent.
Oui, on sait, on l'a vu, c'est nous qui lui avons annoncé la mort de Stéphanie.
Ah, eh bien, c'était un des problèmes qu'il y avait entre elles. Karine essayait de lui piquer Vincent. Enfin, elle le chauffait, quoi.
Jusqu'ici, à cause de l'agression sexuelle, on avait pensé à un garçon. Mais là, ça change tout. Karine ? Karine, la meilleure amie ? Un crime de jalousie ? Karine est immédiatement placée en garde à vue. Et elle répète ce qu'elle a déjà dit.
Moi, j'ai quitté l'appartement à 8h05. Je suis revenu, il était 17h avec Lilian et son frère. Moi, quand je suis parti, Stéphanie, elle était vivante. Ce qui s'est passé après, je sais pas.
Elle ne ment pas. Elle passait des examens ce jour-là. Elle est donc bien partie à 8h05 et revenue à 17h. Mais elle a pu la tuer avant de partir, avant 8h. Mais ça, ce ne sont que des supputations. Il n'y a aucune preuve contre Karine. Et donc elle est relâchée. Le 7 juin, plus de 2 semaines après le meurtre de Stéphanie, ont lieu les obsèques. Et toujours accroché à l'idée que son assassin est un proche, autant vous dire que les policiers scrutent l'assistance. Est-ce qu'il est là ? Et les parents de Stéphanie, eux aussi, regardent alentour, à l'enterrement. Mais eux, ils ont une petite idée. Dans l'entourage de Stéphanie, il y a un garçon qui leur paraît pas net. Et qui ? Vous vous souvenez de Lilian, qui découvre le corps avec Karine ? Oui, le costaud qui enfonce la porte d'entrée et après la porte de la salle de bain. Eh bien, ce garçon, figurez-vous, est le petit copain de la sœur de Karine. La mère raconte qu'il importunait Stéphanie.
Elle m'avait dit qu'elle le trouvait bizarre. Que parfois, il passait comme ça chez elle le matin, à l'improviste. Ça la mettait mal à l'aise, ma fille.
Et là, les policiers se rencardent. Le garçon n'a pas vraiment le profil d'un tueur, il vient de passer un BTS d'électrotechnicien et le concours de la gendarmerie. Il attend les résultats. Par acquis de conscience, les policiers le convoquent. Il a un alibi en béton.
Dites, jeune homme, avant de partir, nous voudrions pratiquer un prélèvement de votre ADN.
En 1995, c'est le tout début de l'ADN en police scientifique. Il compare son ADN avec le poil pubien retrouvé sur le corps de Stéphanie. Ça n'est pas lui. Et à partir de là, ils n'ont plus de suspect. Et là, rebondissement. Selon le labo, Stéphanie a consommé de l'héroïne. On en a trouvé dans son sang. Cette prise de drogue aurait eu lieu entre 1h et 3h avant la mort. Changement donc de perspective. Et si c'était un règlement de compte dans une affaire de drogue ? Ça colle assez bien avec le quartier. Le quartier de la gare de Lille est miné en 1995 par le trafic d'héroïne. Et là, un chauffeur de taxi vient spontanément raconter une histoire.
La fille qu'elle est morte dans l'appartement, là. Moi, je l'ai vue, quelques jours avant sa mort. Elle se faisait poursuivre par 2 types. Elle m'a demandé si elle pouvait monter dans ma voiture. J'ai accepté. Et là, les types m'ont dit, la fouette pas montée, c'est une toxico. Je l'ai pas écouté, hein. Je l'ai chargé dans ma voiture et je l'ai déposé quelques centaines de mètres plus loin.
Mais est-ce que c'était vraiment Stéphanie ? C'est pas sûr du tout, parce que le taxi parle d'une fille avec des cheveux mi-longs, alors que Stéphanie Fauvio avait des cheveux très long. Et les parents, qu'est-ce qu'ils en pensent?
Ça, c'est sûr et certain que Stéphanie, c'était pas une toxicomane, hein? D'ailleurs, on voit pas du tout avec quel argent elle aurait pu se payer de la drogue, franchement.
Et d'ailleurs, les parents réclament une contre-expertise pour savoir si c'était une consommatrice régulière d'héroïne. Ça se voit en général dans les cheveux. Et la surprise, il n'y a pas de trace d'héroïne dans les cheveux. Donc, elle ne se droguait pas. On lui a injecté, ou elle s'est injectée de l'héroïne une seule fois, le matin de sa mort. Peut-être pour brouiller les pistes. Et donc, ne nous égarons pas. Et là, toujours faute de pistes, on en revient au poil pubien. En se disant, c'est sans doute l'ADN du coupable. Et puisque le coupable est sans doute un proche, alors faisons la liste des proches et faisons leur passer un test ADN. Les parents sont mis à contribution. Les policiers leur demandent de dresser un tableau des relations de leur fille. Et ils font ça très sérieusement, hein. Ils vont à la fac de Lille, où elle étudiait les maths. Ils interrogent les camarades d'amphi. Et à la fin, Ginette Fauvio, la mère, rédige une sorte de petit mémoire de 14 pages qu'elle remet à la police. Et dans la foulée, les policiers interrogent des dizaines d'étudiants et ils procèdent à plus de 100 prélèvements ADN. Ça ne donne rien. Ils n'arrivent pas à retrouver le propriétaire de ce poil pubien. L'enquête est dans l'impasse. Et ça dure comme ça un an, deux ans, trois ans, quatre ans. Cinq ans plus tard, le 29 mai 2000, à 30 km de Lille, à Tournai, en Belgique, une élève infirmière de 22 ans, Charlotte Holvouet, une Française, est retrouvée morte dans une chambre d'étudiante. Elle a été étranglée. Et qu'est-ce qu'on trouve sur son nombril? Un poil pubien. Donc on fait le lien tout de suite. Et on se dit c'est peut-être un tueur en série avec un rituel. Et là un homme est arrêté, âgé de 28 ans, un psychopathe qui s'est évadé d'un hôpital psychiatrique. Les policiers français veulent l'interroger, mais les psychiatres belges refusent. Cet homme malade. En revanche, la clinique dans laquelle il est interné est formelle. Le 24 mai 1995, il y a donc 5 ans, le jour du meurtre de Stéphanie Fauvio, ce jeune homme était hospitalisé. Ça ne peut pas être lui. Par précaution, on fait tout de même une comparaison ADN avec le poil pubien, c'est décidément une fausse piste. Et à partir de là, les années passent à nouveau. Un an, deux ans, trois ans, quatre ans de plus. En 2005, ça fait 10 ans que Stéphanie a été tuée. La juge qui a récupéré le dossier est tentée de prononcer un non-lieu. Mais vis-à-vis des parents, elle n'ose pas. Et là s'écoule encore un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, six ans, sept ans. Et nous voilà en 2012. Ça fait 17 ans que Stéphanie est morte. Et en 17 ans, vous vous doutez que les techniques d'exploitation de l'ADN ont beaucoup évolué. En 1995, quand Stéphanie a été assassinée, il fallait beaucoup de salive, du sperme, un poil avec son bulbe pour isoler une empreinte génétique. Mais 17 ans plus tard, on est capable de trouver de l'ADN dite de contact, un peu de transpiration, un tout petit fragment de peau sur un vêtement par exemple. Et donc le juge qui a récupéré le dossier ordonne que 17 ans plus tard, on ressorte les scellés, les pièces à conviction, et notamment un objet, le peignoir, dans lequel on a retrouvé Stéphanie morte. Le laboratoire se met au travail. Et 17 ans plus tard, sur le col du peignoir de Stéphanie Fauvio, pile à l'endroit où elle a été étranglée. Il isole un ADN. Et on retrouve le même ADN sur des mégots prélevés à l'époque dans un cendrier chez Stéphanie. Le même. Or, depuis le début de cette enquête, depuis le premier jour, on sait qui a fumé ses cigarettes et les a écrasées dans ce cendrier. Il l'a reconnu lui-même à l'époque. Et donc, on a probablement le nom du tueur, 17 ans après. Et cet ADN, c'est celui de Lilian. Lilian le Grand, le copain qui était avec Karine au moment de la découverte du corps. Celui qui enfonce la porte de l'appartement pour entrer, et après, la porte de la salle de bain. Celui surtout que les parents de Stéphanie ont désigné depuis le début. C'est lui. C'est probablement lui. 17 ans après, le juge décroche son téléphone et il appelle les parents.
Madame Fauvio, écoutez, je peux pas vous donner de nom. Mais je pense que l'enquête est en train d'aboutir. Nous avons de bonnes raisons de penser qu'on a identifié le coupable de la mort de votre fille, madame.
Et quand il raccroche, les parents Fauvio pensent tout de suite à Lilian le Grand. Tout de suite.
Alors où est-il, 17 ans plus tard, Lilian le Grand? Vous vous souvenez qu'à l'époque, il venait de passer le concours de la gendarmerie? Eh bien, il l'a eu, son concours. Et depuis, il a servi dans la garde républicaine, figurez-vous, au service du président Chirac. Et 17 ans plus tard, il est toujours gendarme. Il est adjudant et très bien noté. Il est marié avec Sandrine, la sœur de Karine, qui était sa petite amie à l'époque, vous vous souvenez. Ils ont deux filles, affectées depuis quelque temps comme informaticien à la gendarmerie de Nice. Les policiers de Lille pourraient envoyer des collègues l'arrêter à Nice. Ils font le choix de lui adresser une simple convocation. Le 12 novembre 2012, Lilian Legrand se présente donc à la police judiciaire de Nice.
Bonjour monsieur. Je vous en prie, asseyez-vous. Je vous informe qu'à dater de cet instant, vous êtes placé en garde à vue dans le cadre d'une information pour meurtre. Meurtre commis il y a 17 ans. De mademoiselle Stéphanie Fauvio.
Le type est gendarme. Il reste parfaitement calme. 17 ans plus tard, il répète ce qu'il a déjà dit à l'époque, mot pour mot. Mais évidemment, il ne sait pas que les flics ont son ADN.
Monsieur Legras, si on vous réentend aujourd'hui, vous vous doutez bien que c'est parce qu'on a des charges importantes contre vous. Vous devriez parler, monsieur.
Silence.
Je dois vous informer que, à cet instant précis, Monsieur Legrand, votre femme, votre frère et votre père sont également placés en garde à vue. En 1995, ils vous ont fourni un alibi. Et d'après ce qui me remonte de leurs interrogatoires respectifs, eh bien, ils sont plus aussi formels qu'à l'époque. Parlez-nous, monsieur. Parlez-nous.
Mais l'adjudant Legrand ne se démonte pas. Et donc, à un moment, il faut abattre la carte maîtresse.
Bien, monsieur, je vous informe que nous avons trouvé votre ADN, monsieur, sur le peignoir de mademoiselle Fauvio, à hauteur de son cou. Et vous savez qu'elle a été étranglée, n'est-ce pas? Qu'avez-vous à dire là-dessus?
Et là?
D'accord. Mais je vous jure que c'était un accident.
Il explique qu'à l'époque, il a eu une aventure avec Stéphanie.
J'avais couché avec elle 3 ou 4 fois, c'est tout.
Il dit que le matin du 24 mai 1995, il a sonné à l'interphone, qu'elle l'attendait, qu'ils ont fait l'amour, et qu'au cours du rapport sexuel, un peu trop fougueux, Stéphanie est tombée en arrière et qu'elle s'est fracassé le crâne contre la baignoire. Ça ne tient pas debout. Elle a été étranglée. Elle n'est pas morte d'un coup sur la tête. Et pour vous dire les choses, les policiers ne croient pas non plus qu'ils aient été amants. Et donc Lilian Legrand est obligé de servir une autre version. Un matin là, j'ai sonné chez elle parce que je voulais la voir. Elle m'a ouvert la porte. Et quand j'ai vu qu'elle était nue sous son peignoir, je sais pas, ça m'a donné une pulsion. J'ai eu envie de coucher avec elle. Je lui ai proposé qu'on prenne un bain ensemble, elle a refusé.
Il dit qu'il a voulu la toucher, qu'elle l'a repoussée, qu'elle est tombée, qu'elle s'est cognée la tête et qu'il l'a étranglée pour faire croire à une tentative de cambriolage qui tourne mal. Et là, ça colle à peu près avec la scène de crime. Même si on ne peut pas être certain que c'est la vérité. Il est incapable d'expliquer, par exemple, pourquoi on l'a retrouvé le visage ébouillanté. Ni d'où vient l'héroïne qu'on retrouve dans son sang. À l'issue de sa garde à vue, Lilian Legrand est mis en examen pour meurtre et tentative de viol. Et il est écroué dans l'attente de son procès. Le procès de Lilian Legrand s'ouvre 21 ans après le crime, en octobre 2016, devant la cour d'assises du Nord, à Douai. Il entre dans le box impeccable. Veste bleu marine, chemise blanche. Il a embauché le meilleur avocat qu'il soit, Éric Dupont-Moretti. Et d'emblée, il annonce
« Je plaide non coupable. Je n'ai pas commis le crime dont vous m'accusez. »
Il prétend n'avoir joué aucun rôle dans la mort de Stéphanie Fauvio. Et à partir de ce moment-là, il ne prononce plus un seul mot. Pas un mot pendant les 5 jours du procès. Mais alors comment expliquer la présence de son ADN sur le col du peignoir de la victime? Son avocat, Dupont-Moretti, a une explication.
Vous convenez que Lilian Legrand est un proche de la victime? Et donc à ce titre, il va chez Stéphanie Fauvio régulièrement. Et vous avez noté que dans son appartement, les toilettes ne sont pas séparées. Elles sont dans la salle de bain. Et le peignoir, lui aussi, est pendu dans la salle de bain, à un clou. Et donc, un jour, Lilian Legrand va aux toilettes, il se lave les mains, et il s'essuie les mains sur le peignoir de Stéphanie. Est-ce que vous n'auriez pas fait la même chose ?
Ouais, ça tiendrait, pourquoi pas? Si en garde à vue il n'avait pas avoué, et surtout si après sa garde à vue, Lilian Legrand n'avait pas écrit à sa femme une lettre pour s'expliquer et pour s'excuser. Une lettre qui se termine par cette phrase terrible. « Je suis désolé, maintenant tu sais d'où viennent ces 17 années d'insomnie ». Imaginons que les policiers lui aient extorqué des aveux. Ça arrive! Mais personne ne l'a forcé à écrire cette lettre. Alors Dupont-Moretti a beau plaider que son client s'est retrouvé enfermé dans un engrenage de mensonges qui démarre avec les aveux, qui se termine par cette lettre. Ça ne convainc personne. Au terme de 5 jours d'audience, Lilian Legrand est condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Naturellement, il fait appel, il est rejugé en décembre 2017 devant les assises du Pas-de-Calais à Saint-Omer. Même ligne de défense, même dénégation et même peine. 30 ans. Et une affaire qui, au final, laisse beaucoup de zones d'ombre. Mais à qui appartenait ce fichu poil pubien? Pourquoi y avait-il de l'héroïne dans le sang de Stéphanie? Et pourquoi a-t-il ébouillanté son visage? Des questions qui, 22 ans plus tard, restent sans réponse. Incroyable histoire que nous allons débriefer maintenant avec celui qui fut 2 fois en première instance et en appel avocat général au procès de Lilian Legrand, Luc Frémiot.
Alors Luc Frémiot, on peut peut-être d'ailleurs commencer par ces deux mystères qui demeurent. Peut-être que vous avez une idée de ce qui s'est vraiment passé. Le poil pubien d'abord, il était là par hasard ?
Eh bien écoutez, pour moi c'est pas du tout un mystère. Parce qu'il y a un élément qui est très important, qu'on retrouve lorsque l'on étudie l'état des lieux, lorsque la police scientifique vient sur place. Le corps de Stéphanie, eh bien, est dénudé à l'origine, et Legrand a jeté une couverture sur le corps de celle-ci, de manière, dira-t-il, à préserver sa pudeur. Or, voyez-vous, cette couverture a été ensuite fait l'objet de nombreux examens. Et on s'est rendu compte, en fait, que cette couverture, supportait d'autres poils pubiens, des cheveux, des poils de toute nature. Et lorsqu'on a interrogé la colocataire de Stéphanie, eh bien, elle a expliqué que, comme beaucoup de logements d'étudiants, eh bien, il y a des étudiants qui s'invitent le soir, qui boivent un petit peu, qui passent une bonne soirée là, et qui terminent sur le canapé en train de dormir. Et là, il y a cette couverture, qui leur sert tout simplement.
Donc Lilian Legrand a dormi dans cette couverture, ou quelqu'un a dormi dans cette couverture, qui n'est pas Lilian Legrand plutôt.
Bien sûr, mais il y a eu toute une série de personnes qui sont venues passer la nuit là-bas. Le problème, c'est évidemment, c'est d'essayer de les retrouver, mais c'est quasiment impossible. Dans une vie d'étudiant, on le sait, il y a des gens qui sont des habitués, il y a des familiers, puis il y a des autres qui sont des gens occasionnels. Mais ce qui est frappant dans tout ça, et ça, c'est ce que j'ai évidemment requis dans mon réquisitoire, eh bien, c'est que c'est Legrand lui-même qui prend cette couverture, et qui, avant l'arrivée de la police, eh bien, va protéger, comme il dit, le corps de ses familles pour cacher un petit peu sa pudeur. Vu la posture qu'elle avait, il explique ça comme ça.
Donc une des erreurs de l'enquête, au fond, c'est de s'être accroché à ce poil pubien, comme s'il était certain que ce soit le poil du tueur.
Tout à fait. Et je pense que ça, c'est un élément qui n'a pas été vu. Vous savez, ça arrive très souvent dans les enquêtes. C'est-à-dire, à force de ramasser des indices, à placer des scellés, etc., il y a toujours quelque chose qu'on oublie. Parfois, on oublie même des prélèvements sous les ongles. J'ai déjà vu ça dans d'autres dossiers. Eh bien là, cette couverture-là, voyez-vous, on n'a pas fait la relation avec cette petite phrase de Legrand qu'on retrouve dans un procès-verbal expliquant justement qu'il a fait ça. Legrand, il pêche comme d'habitude par orgueil. Il veut montrer que c'est quelqu'un de bien, qu'il a eu cette attention vis-à-vis de cette jeune femme défunte. Et en fait, ça explique un petit peu ce problème, ce mystère du poil pubien.
Et l'héroïne, alors, d'où pourrait venir l'héroïne ? À aucun moment dans ses aveux, il ne dit « je lui ai injecté de l'héroïne ».
Alors, l'héroïne, ça restera le grand mystère. Alors, ce qu'il faut bien intégrer, c'est d'abord que Stéphanie, c'est pas une héroïnomane. Bon. Alors, comme toute une série de jeunes gens, il lui est arrivé, effectivement, déjà de fumer du cannabis. Ses proches amis l'ont dit, c'est pas une habitude, c'est occasionnel, elle ne fumait jamais non plus dans son domicile. Mais quant à l'héroïne, il n'y a rien. À aucun moment, ses amis, et Dieu sait si on a entendu un nombre impressionnant de témoins, aucun de ceux-ci ne dit l'avoir vu utiliser de l'héroïne. D'autre part, vous avez une expertise. L'expertise des cheveux, comme vous l'avez bien dit tout à l'heure, démontre que ce n'est pas une junkie. C'est pas quelqu'un qui se drogue de façon régulière. En plus, on a quand même des horaires. On sait, par exemple, que sa colocataire s'en va à 8h05. Le crime ou l'assassinat, il y avait peut-être une préméditation, ça on ne sait pas. Eh bien, c'est déroulé dans l'heure qui a suivi. Comment expliquer qu'une jeune fille qui s'apprêtait à prendre son bain, qui avait discuté avec sa colocataire avant qu'elle parte en lui disant « Mais tu sais, ce soir, j'ai une belle soirée, j'ai passé la soirée avec Vincent, mon petit ami. À ton avis, qu'est-ce que je mets comme vêtement ?» Ses préoccupations, c'était ça. Elle voulait se faire belle. En plus, elle se dépêchait parce qu'il y avait un examen qu'elle devait passer le matin. On est à mille lieues de penser que cette jeune femme s'est injectée volontairement l'héroïne. Alors, je ne sais pas. Est-ce qu'on le lui a injecté ? Est-ce que Lilian Legrand lui a injecté de l'héroïne, de force, pour l'amener peut-être à accepter ses avances ? Est-ce qu'il y a eu un problème au niveau des expertises ? Je ne sais pas. Ça, c'est un mystère qui reste entier.
Si c'est Legrand qui lui injecte de l'héroïne, alors c'est un meurtre avec préméditation, c'est un assassinat, ça vaut perpétuité.
Tout à fait. Tout à fait, mais cette solution-là, cette hypothèse-là, en fait, n'a pas été confortée par aucun autre élément. On ne peut pas, effectivement, sur une impression, une idée, une intuition, renvoyer quelqu'un du chef d'assassinat dans ces conditions-là.
Alors, à quoi est-ce qu'il ressemble, ce Lilian Legrand, pour autant que vous ayez pu accéder à lui, d'ailleurs, puisque, si j'ai bien compris, il ne dit rien, au moins au cours du premier procès.
Ça, on n'a pas besoin de parler pour se dévoiler. Les silences, parfois, les comportements, les regards, les mimiques, eh bien, vous renseignent sur les comportements et sur les personnalités. Lilian Legrand, c'est quelqu'un de très sombre, de très austère, de fermé. Je crois que c'est l'expression qui lui convient le mieux. Je dirais même qu'il est cadenassé. Il a une façon de toiser son auditoire. Il a les bras croisés, en position de défense. Et ses yeux noirs, en fait, circulent sans arrêt, regardent les témoins, la famille de la victime. Il n'y a jamais eu, à aucun moment, le moindre soupçon d'empathie, de désarroi, rien.
Mais il ne dit rien à son Parfaitement. Premier procès. Et au deuxième, il parle un peu ?
Au deuxième, il s'est exprimé davantage, effectivement. Parce qu'on lui a fait observer que le fait d'avoir pas parlé dans son procès, en premier temps, ça pouvait se retourner contre lui, la preuve. Mais lorsqu'il parle des faits, mais il se contente de confirmer bien que les éléments qu'on a depuis le début, c'est-à-dire qu'il est arrivé là ce soir-là, par hasard, pour aller chercher, sa future belle-sœur, qui devait ramener à son domicile, et puis qu'ils sont tombés sur cette scène-là. Il n'y a rien d'autre.
Sa stratégie de défense, donc, vous saviez qu'il allait, puisque vous voyez l'accusé en général, je ne sais pas vous le voyez pas avant le procès.
Non.
Vous saviez qu'il allait arriver au procès et revenir sur ses aveux ?
Non, absolument pas.
C'est une surprise pour vous ?
Écoutez, c'est pas vraiment une surprise, vous savez, ça fait 30 ans que je fais des assises, j'ai eu plus de 400 dossiers derrière moi, j'ai vu à peu près toutes les façons de se comporter qu'on peut imaginer. Ça n'a pas été une surprise, et le comportement qu'il a eu au cours de l'audience, je vous dis, ce comportement fermé, bloqué, en fait, est en adéquation parfaite avec sa ligne de défense, c'est pas lui. Alors tout ça, c'est très très désagréablement ressenti, parce que il y a une atmosphère très lourde, voyez-vous. Vous avez les parents qui sont là, mais qui cherchent un embryon d'étincelle d'humanité chez celui qui le regarde, il voudrait qu'il croise au moins le regard, et il ne le fait pas. C'est des choses, si vous voulez, que lorsqu'on les vit, on s'en souvient. J'imagine encore aujourd'hui les parents de Stéphanie qui doivent encore penser à ces moments si durs.
Et alors, il enferme son avocat dans sa stratégie de défense intenable.
Et vous savez, la stratégie de défense, elle est intenable, mais n'oubliez jamais qu'on est devant des jurés. Devant des magistrats professionnels, je pense que c'est une stratégie qui est indéfendable. Devant des jurés, c'est compliqué, parce que la défense a très intelligemment et habilement essayé de d'abord démonter la personnalité de Stéphanie en la faisant passer pour ce qu'elle n'était pas, c'est-à-dire une consommatrice de produits stupéfiants, pour quelqu'un qui était en difficulté avec ses colocataires parce qu'elle ne s'en rendait pas à cause de son mauvais caractère, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Il y avait quelques divergences, mais les jeunes femmes se parlaient, vivaient ensemble, avaient décidé de se séparer à la fin de l'année universitaire. Donc il y a cet aspect-là. Puis après, eh bien, il y a cet essai qui a été fait par les avocats de la défense de reporter l'origine du crime sur quelqu'un d'autre. Alors, on a parlé d'un pourvoyeur, effectivement, de produits stupéfiants qui aurait pu venir lui réclamer de l'argent. On a parlé ensuite d'un marginal qui avait été vu dans un café avec des traces de griffures sur le visage. On a parlé de ce fameux Belge dans l'hôpital psychiatrique. Voilà, tous ces éléments-là, voyez-vous, avec toujours un recours à ce poil qu'on n'explique pas, à cette trésorerie qu'on n'explique pas, ça peut influencer des jurés qui se posent des questions.
C'est-à-dire, vous êtes en train de me dire que vous avez craint à un moment que Dupond-Moretti arrive à retourner le jury en faveur de son client.
Mais je le crains dans toutes les affaires.
Mais là particulièrement.
Là particulièrement non, mais il y avait cette possibilité-là. Il y avait bien sûr une possibilité. La difficulté, c'était effectivement de reprendre les choses dans l'ordre, et puis de leur faire comprendre à ces jurés qu'on avait des éléments matériels, mais en plus des comportements, parce qu'il faut parler des comportements pendant l'enquête. Il y a des choses qui sont d'une perversité totale. Lilian Legrand vient avec son frère Régis ce soir-là, et Karine, pour aller chercher les affaires de toilette de Karine avant de rentrer en week-end. Mais Régis ne devait pas venir normalement. C'est Lilian qui lui a dit, mais si, viens, tu fabriques des bouquets de fleurs séchées. Régis faisait ça pour harmonir ses petites fins de mois d'étudiants. On va aller les présenter à la maman de Karine, amène ses bouquets, on ira ensemble.
Manipulateur, et, quoi.
Voilà, mais il fait venir quelqu'un. Et vous savez ce qui se passe ? Pendant que Karine est en train de préparer ses affaires, qu'il n'est pas encore rentré dans la salle de bain qui est fermée à clé, mais il va y rentrer. Et bien Lilian Legrand va dans le frigidaire, il prend un yaourt et il mange tranquillement, en attendant que Karim fasse cette découverte affreuse de cette porte fermée, et puis ensuite la découverte du corps. Ensuite, il y a le petit mot qui va coller sur le frigidaire en mettant « on a dû enfoncer la porte ». On est dans une manipulation perverse totale.
Le motif est 100% sexuel pour vous ?
Oui, je suis absolument persuadé. D'ailleurs, il y a plusieurs choses qui permettent de l'établir. D'abord, il y a la position dans laquelle on retrouve Stéphanie. Moi, je pense que Stéphanie, elle a été surprise au moment où elle faisait couler son bain. Est-ce que Lilian n'avait pas, comment dire, une clé ? Moi, c'est ce que j'ai soutenu lors du réquisitoire. C'est d'ailleurs quelque chose qui est tout à fait plausible, parce que Lilian passait des week-ends dans la famille de Karine, et Karine avait évidemment la clé. Il aurait très très bien pu faire un double de cette clé, et je pense que c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui explique que cette jeune femme, qui n'aurait jamais ouvert à moitié nue, enfin complètement nue sous un peignoir, on la retrouve dans la salle de bain, le visage ébouillanté. En fait, la scène, à mon avis, la tentative de viol s'est passée dans la salle de bain, elle a été surprise là, il l'a poussée. La position du corps ne laisse aucun doute sur la tentative de viol. Et le corps cassé en deux, eh bien, elle a la tête en arrière, dans l'eau qui était brûlante, puisqu'elle faisait couler l'eau chaude pour son bain. Le fait qu'elle n'ait pas fermé le robinet, voyez-vous, et que ce soit de l'eau brûlante, ça prouve que, bien évidemment, qu'elle n'attendait personne. Elle était là en train de préparer sa toilette.
Je pense à sa femme, je suppose qu'elle a témoigné à son procès, donc elle vit avec lui depuis 17 ans, sans savoir que c'est un tueur. C'est terrible.
Mais sans savoir que c'est un tueur et sans savoir qu'il l'a trompé pendant des années et des années. Lilian Legrand est parti à Nice, il avait dit à sa femme que c'était pour refaire une vie au soleil, vivre de façon très agréable. Mais ce qu'il lui avait pas dit, c'est qu'il avait une maîtresse à qui il avait demandé également de se déplacer dans le sud. Elle apprendra au cours de l'instruction et au cours du procès, malheureusement, eh bien, qu'elle a été trompée, mais très, très, très régulièrement par cet homme qui est très, très attiré, d'une façon, d'ailleurs, presque obsessionnelle par les jeunes femmes.
Comment elle se comporte à l'audience, elle, sa femme? C'est intéressant, ça. Est-ce qu'elle l'accuse ou est-ce qu'elle cherche à le protéger?
Sa femme a été très, très digne. Elle a été très digne, il n'y a pas d'autre mot à dire. Elle a répondu aux questions qu'on lui posait, notamment sur l'alibi qu'elle lui avait fourni, puisqu'elle disait, comme le père de Lilian, qu'il était resté chez lui jusqu'à 8h05, qu'il était parti à 8h05, à 30 km de Lille, donc il ne pouvait pas connaître du crime sur les lieux. Elle a confirmé ça de manière beaucoup plus évasive, parce qu'elle disait qu'elle ne se souvenait plus, etc. Et lorsqu'on la met en face des éléments à charge que l'on a, elle répond, eh bien, je ne sais plus quoi penser. Voilà, en fait, c'est une femme qui est brisée, qui absolument mais à la dérive, et qui petit à petit, je pense, comprend ce qui s'est passé, avec qui elle a vécu.
J'ai une dernière question pour vous, Luc Frémiot. Vous avez été d'abord procureur général du Nord, puis...
Non, avocat général.
Avocat général du Nord. Vous avez plaidé devant la cour d'assises pendant des années, et vous avez souvent eu face à vous celui qu'on appelle acquittateur, qui à l'époque était avocat à Lille, Éric Dupond-Moretti. Comment est-ce que vous le regardez, cet avocat qui est sans doute le plus doué de sa génération, qui a obtenu plus de 150 acquittements aujourd'hui devant la cour d'assises? Vous avez de l'admiration pour lui? Il vous a agacé parfois?
Écoutez, c'est une histoire assez longue avec Éric Dupond-Moretti. Je le connais depuis très très longtemps, effectivement. Nous avons été amis, et ensuite les affaires qui nous ont posées étaient des affaires avec de tels enjeux que la violence de l'audience et les personnalités de chacun nous ont amenés à nous opposer de façon très très forte.
Ouais.
Donc,
de l'admiration.
Il est clair. Oui, forcément, le talent est toujours admirable. Les moyens ne le sont pas toujours, en revanche.
C'est-à-dire qu'il secoue beaucoup les victimes. C'est ce qui gêne beaucoup, en général.
Les victimes, les témoins, ceci dit, moi, lorsque ça m'arrive, j'interviens et je remets les choses en état. Le problème, c'est que si on le laisse faire, il peut faire n'importe quoi. Hein. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, il faut se méfier beaucoup des réactions des jurés, bien évidemment.
Merci Luc Frémiot d'avoir une fois de plus accepté de débriefer cette histoire qui est l'une des 100 histoires que vous avez eues à défendre au long de votre carrière.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.